Vous écoutez France Culture.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation sur France Culture. Aujourd'hui, l'innovation va-t-elle, peut-elle sauver l'école avec Didier Lapéroni et François Jarreau. Comme chaque semaine, c'est Geneviève Méric qui m'a aidé à préparer cette émission et c'est Olivier Guérin qui la réalise et ce soir, c'est Ariane Herbé qui en assure la prise de son. Pour nous parler, participer au débat ou ajouter des références, rendez-vous sur franceculture.fr, rubrique Rue des Écoles. Les commentaires sont mis en ligne dans les heures qui suivent ou sur Twitter, hashtag RDE. L'innovation serait un moteur de la réussite de l'école. C'est en tout cas le credo du ministère de l'Éducation. Il y a un an a été créé le ministère délégué à la réussite éducative. La ministre en question, c'est Georges Pollangevin. Et elle a supervisé le mois dernier l'installation d'un conseil de l'innovation pour la réussite éducative. Alors, qu'attend-on de cette innovation? Mobiliser les élèves? Remotiver les enseignants? Relancer une école à bout de souffle? Et d'ailleurs, que signifie innover dans le système? Et puis, dernière question, quel signe envoie le ministère en choisissant le sociologue Didier Lapéroni, spécialiste des banlieues, pour présider ce nouveau conseil de l'innovation? Nous lui poserons la question, c'est sa première interview en tant que président de ce conseil aujourd'hui. J'ajoute que cette émission est faite en partenariat avec le Café Pédagogique.net. François Jarreau, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien, donc vous êtes le rédacteur en chef du Café Pédagogique. Pour vous, l'innovation, c'est central. Vous organisez chaque année un forum des enseignants innovants. On en a parlé ici aussi, donc il était intéressant de vous avoir et pour vous poser des questions et pour entendre celles que vous avez à poser à Didier Lapéroni, que je salue. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de la Sorbonne. Vous venez aussi de publier un livre avec Michel Kokoreff, « Refaire citer l'avenir des banlieues » dans la collection « La République des idées au seuil ». Est-ce que vous avez été surpris qu'on fasse appel à vous pour présider un conseil de l'innovation pour la réussite éducative? Est-ce que ça a un rapport avec la question des quartiers, des cités, des banlieues?
D'abord, j'ai été surpris, oui, parce que je ne suis pas spécialiste de questions d'éducation. Je suis même assez étranger à ce monde-là. Évidemment, la question de l'école et la question de la place de l'école, de la réussite des élèves, de la réussite scolaire et de la réussite éducative est une question toujours centrale, disons, dans les préoccupations des gens qui habitent les quartiers populaires et en particulier les cités de banlieue. J'étais hier soir dans une cité à Aulnay avec un groupe d'une dizaine ou douzaine de mères de famille avec qui j'ai passé la soirée, et on a parlé de la situation, et le thème central qui revient sans arrêt dans la conversation, c'est évidemment la question de l'école et des difficultés scolaires, des difficultés avec le collège du coin ou avec l'école primaire, et des rapports assez difficiles, disons, avec le monde scolaire. Donc ça a à voir très directement, effectivement, avec cette question sociale et cette question politique qui est celle des banlieues.
Pour vous, l'innovation doit-elle se tourner en particulier vers ces quartiers difficiles? Et l'axe, puisque vous en parliez, doit-il être aussi la relation de l'école aux familles?
J'ai quand même tendance à penser que le rapport des catégories populaires en France à l'école est un des problèmes fondamentaux que nous avons aujourd'hui, même si ça ne peut pas se résumer, disons, à uniquement cette question et uniquement les quartiers populaires.
Alors, François Jarreau.
Au dernier forum des enseignants innovants, donc on a donné une douzaine de prix, la majorité des prix viennent de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire c'est quand les enseignants sont dans des situations vraiment difficiles à gérer que du coup, ils sont en situation d'obligation d'innovation et qui cherchent et ils trouvent des solutions pédagogiques innovantes.
Mais ça pose une énorme question à l'école. C'est, est-ce qu'on crée une école spécifique pour des quartiers spécifiques qui sont hors circuit et est-ce que l'école n'a pas aussi intérêt à maintenir sa continuité dans le temps, sa continuité dans le territoire et une certaine forme d'égalité de traitement entre tous les élèves, parce que c'est ça aussi l'école de la République traditionnellement en France, en tout cas c'est l'idée qu'on en a.
Pour avoir cette continuité, elle est bien, il faut effectivement des écoles différenciées. Il faut tenir compte de la réalité de départ des élèves.
Didier Lapéroni,
comment je ne vois pas pourquoi on opposerait les deux. Pour maintenir la continuité de l'école et maintenir les principes qui la fondent, notamment les principes égalitaires, il faut qu'elle puisse, quand vous dites qu'il faut faire plus, pour l'instant, les gens qui vivent dans ce genre d'endroit ont le sentiment qu'on fait plutôt moins pour eux que ce qu'on fait, disons, dans les quartiers qui sont les quartiers plus favorisés ou plus riches. Donc je ne vois pas pourquoi on opposerait les choses et il me semble qu'il faut réfléchir d'une manière ou d'une autre à améliorer disons, à la fois l'offre d'éducation, le fonctionnement de l'éducation et le rapport de l'école dans les quartiers populaires avec la population dans son ensemble, pas simplement les familles mais aussi les enfants notamment.
Les enfants, les élèves.
Alors les élèves.
On va revenir.
J'ai bien dit les enfants.
On va revenir à l'innovation à proprement parler. L'actualité, c'est le rapport de la Cour des comptes, rapport sur le métier d'enseignant, gérer les enseignants autrement, un rapport très dur sur la gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale et sur le fait que finalement les profs inexpérimentés sont tout de suite mutés dans les quartiers les plus difficiles, alors que les profs expérimentés et les mieux payés, ceux qui coûtent finalement le plus cher en termes de masse salariale, sont dans les centres-villes ou dans les endroits de leur choix. L'ouest de la France, le sud de la France sont aussi des zones choisies. Je me suis interrogée sur le fait que le rapport avait été rendu public cette semaine, alors que la loi sur la refondation de l'école était discutée au Sénat. François Jarreau.
Bah oui, effectivement, c'est le timing, parce que les idées qui sont dans le rapport, à vrai dire, c'est des idées très anciennes. Je rappelle que Luc Chatel, pendant la campagne électorale, juste avant la fin de la campagne électorale, avait proposé également l'annualisation du service des enseignants. Donc toutes ces idées-là sont des idées qui ne sont pas nouvelles, que la Cour des comptes a déjà recyclées dans au moins un rapport et peut-être plus. Mais évidemment, le moment choisi n'est pas anodin. Il y a le rapport avec la loi d'orientation, mais il y a la question plus globale du budget de l'éducation nationale. En fait, quand Vincent Peillon arrive au Conseil des ministres, c'est comme Ali Baba et les 40 voleurs. Lui, il rafle tous les postes et puis il laisse ses collègues se débrouiller avec des diminutions de postes, en fait. Donc là, quand on lui dit « oui, mais c'est mal géré chez vous, vous pouvez très bien vous débrouiller avec moins de moyens », c'est clair qu'il y a 39 ou 40 oreilles au Conseil des ministres qui se dressent et qui écoutent ça.
Les idées et les solutions défendues par la Cour des comptes sont-elles les solutions de la droite? Vous avez parlé de Luc Chatel. Hier, Benoît Apparu réagissait en disant que les conclusions de la Cour des comptes rejoignaient tout à fait ses propositions à lui, les amendements qu'il avait proposés lui à l'Assemblée nationale. Il est député. Quelles sont les marges de Vincent Peillon, ministre de gauche, avec les syndicats pour les négociations qui auront lieu à l'automne rapidement, et puis on revient sur l'innovation.
Moi, je crois que le problème de Vincent Peillon, c'est plus sa position au gouvernement que les syndicats. Parce que là, il va avoir une pression beaucoup plus forte de ses collègues pour que l'éducation nationale soit un peu moins prédatrice, en fait, sur les postes. Alors, par rapport aux points qui sont soulevés dans ce rapport, c'est clair que l'annualisation est quelque chose qui va avoir du mal à passer parce qu'on est dans un contexte où, de toute façon, les enseignants savent bien qu'ils ne vont pas s'y retrouver. Et puis, il y a une autre question que pose aussi l'annualisation, qui est le fait que beaucoup de gens sont rentrés dans l'enseignement pour des raisons d'emploi du temps qui sont pas compatibles, en fait, avec l'annualisation.
Didier Lapéroni, on pense à une question. Je ne vais pas vous emmener sur l'annualisation des heures d'enseignement. Mais les enseignants, pour l'innovation, vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce que vous allez, dans votre fonction de président du Conseil de l'innovation, aller voir ce qui se passe dans les établissements? Comment allez-vous travailler?
On va travailler à partir de la définition d'un certain nombre de thèmes qui nous semblent prioritaires. L'idée est quand même d'abord, et ça fait partie de la mission, de repérer les innovations et ce qui se fait en la matière. Et il y a beaucoup de choses qui se font, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que le système a l'air monolithique, bloqué, vu de l'extérieur. En fait, dès qu'on regarde un peu les choses, il y a beaucoup de, énormément, et mon voisin peut en témoigner, énormément de choses qui se font. Et le premier objectif de ce conseil, c'est de repérer ça, de valoriser ce type de choses, de voir si c'est possible de les transférer et d'essayer d'en tirer, disons, de les politiser d'une certaine manière, de leur donner une forme d'impact si on juge ou si le conseil juge qu'elles sont positives. Donc l'idée est de faire bouger ou de faire évoluer un certain nombre de choses en s'appuyant sur les acteurs. Pas contre les acteurs, mais en s'appuyant sur ce que font les acteurs et en diffusant ce que font les acteurs.
La vraie problématique, François Jarreau, c'est bien celle-là, c'est celle de diffuser l'innovation, si ce n'est de la modéliser, au moins de permettre le fait qu'elle puisse être dupliquée.
Alors, il y a eu sur le repérage, déjà, il y a eu un rapport excellent d'Yves Rotter, il y a quelques années, qui montre pas uniquement les difficultés du repérage, mais le fait que le système ne sait pas du tout accompagner le repérage. Et puis, le fait qu'une administration de l'innovation, c'est un peu comme un service de presse pour une entreprise ou un service de l'État. Je veux dire, ce n'est pas fait pour donner des informations, c'est fait au contraire pour empêcher l'information. Donc il y a quand même là des problèmes qui vont se poser, je crois, assez sérieusement. Effectivement, il y a énormément de choses qui se font dans l'institution, mais de fait, quand on consulte les enseignants innovants, nous on l'a fait en octobre dernier à partir de ceux qu'on avait croisés les 6 dernières années, les résultats qui nous remontent au niveau de l'accompagnement, franchement, c'est assez désastreux, quoi. Donc beaucoup d'enseignants...
L'accompagnement, c'est la hiérarchie, les collègues, les parents d'élèves.
Je vais donner un exemple. Au dernier salon de l'éducation, on avait fait venir 3 enseignants innovants. Et c'était au moment d'ailleurs où M. Payon tenait un déjeuner avec une douzaine d'enseignants innovants. Sur les 3 que j'avais fait venir sur la qualité de leur projet, il y en avait un qui avait été sanctionné entre-temps. Another voice in mind, another voice inside, speaking words to me, making sound for my ears. I'm a mountain old and high, sleeping under the moonlight, 'cause you know I'm
Rue des Écoles sur France Culture. On se demande aujourd'hui si l'innovation peut sauver l'école. On se pose la question avec François Jarreau, rédacteur en chef du Café Pédagogique.net, et Didier Laperroni, tout nouveau président du tout nouveau Conseil de l'innovation pour la réussite éducative. C'est sa première interview dans cette fonction. Dernier ouvrage en date, Refaire cité, l'avenir des banlieues. Est-ce que l'innovation ne fait pas écran quand les problèmes dont on parle sont plus profonds. Finalement, le grand problème de l'école dans les quartiers difficiles, c'est l'inclusion des publics. Et le problème en général de l'école, c'est la reproduction, voire le fait qu'elle accentue les inégalités sociales et l'inclusion des élèves qui ne possèdent pas, on va dire rapidement, les codes de l'école. Ça, c'est un problème très politique.
Le problème de l'école dans les quartiers n'est pas simplement le fait qu'elle est perçue ou qu'elle est vécue comme très fortement inégalitaire. Il est aussi un problème plus proprement politique, c'est-à-dire qu'elle a perdu en grande partie toute forme de légitimité, et elle est souvent vécue par les élèves notamment, mais aussi souvent par les familles, plutôt comme un obstacle que comme un vecteur d'ascension, d'intégration sociale, et voire même un vecteur de formation ou d'éducation, de formation de la personnalité. Donc c'est tout un problème, me semble-t-il, qui rend l'acte pédagogique et le fonctionnement de l'école plus compliqué, le fait qu'elle n'ait pas, ou qu'elle ait perdu cette forme de légitimité politique. Ce qu'elle a eu pendant très longtemps dans les quartiers populaires ou dans les catégories populaires, les gens considéraient que l'école était leur école, d'une certaine manière. Aujourd'hui, quand ils en parlent, ils en parlent comme d'un corps étranger. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'innovation, le travail en équipe, il y a tout un travail pour redonner de manière plus large une forme ou une autre de légitimité au système scolaire et à l'école et à l'acte pédagogique ou à l'acte d'enseignement des enseignants.
François Jarreau, si cette question qui serait la question principale de l'école, c'est de faire adhérer le maximum d'élèves à son projet, à son grand projet républicain, qu'est-ce qu'on peut chercher comme solution dans l'innovation pédagogique ?
Dans la situation actuelle économique de la France, il y a une obligation d'innovation. Le mot innovation, on le retrouve partout. Jamais il a eu un succès comme aujourd'hui, puisqu'on sent bien qu'effectivement, il y a un besoin de renouvellement dans le pays. Dans l'éducation nationale, je crois que par contre, il y a une espèce de contresens. En tout cas, il y a une réflexion à mener sur la façon dont on va transférer l'innovation. On peut donner à penser que ce qui a été innové à un endroit est facilement transférable à un autre endroit, voire même généralisable à l'ensemble du système éducatif. C'est un peu ce qu'on entend dans les discours officiels. Et là, c'est l'idée des bonnes pratiques, pour une autre façon de les nommer. Là, je crois qu'il y a quand même un peu un leurre, parce qu'en fait, pour qu'une innovation puisse être transférée, il faut vraiment des conditions particulières, il faut s'intéresser aux conditions du transfert.
J'ai été interpellée au début du mois de mai par un article de Rue 89, un autre journal en ligne, François Jarreau, qui évoquait les difficultés des enseignants à enseigner, tout simplement. Alors l'article est titré « Monsieur, vous dites ça parce que vous êtes un Illuminati ». Alors les Illuminati, c'est en fait une forme de paranoïa politique, de théorie du complot, les Illuminati étant des complotistes qui seraient partout au poste clé de la société. Je vous laisse imaginer le reste de la théorie. Didier Lapéroni, ça rejoint aussi des théories que vous élaborez sur l'exclusion politique, exclusion qui pose aussi des problèmes dans l'acte même d'enseigner.
Quand on observe l'école vue du point de vue des quartiers populaires, il y a un problème qui s'inscrit dans un problème plus général qui est d'ordre politique, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'école a contribué à la formation d'un projet politique et avait ce projet politique, vous avez évoqué la République, dans laquelle les catégories populaires ont longtemps adhéré et ont adhéré via l'école. Aujourd'hui, le sentiment est probablement que ces catégories sont hors du projet politique, ou hors de tout projet politique, d'où souvent des dérives où ils sont dans une espèce de vide où qu'ils remplissent par un peu souvent n'importe quoi, et notamment les théories du complot ou des choses de ce type. Mais du coup, ça a un impact très direct sur l'acte d'enseignement, puisqu'il a perdu toute forme de légitimité ou il a perdu toute forme de pertinence, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit plus pour les gens dans une forme de projet collectif. D'où mon sentiment, pour relier ça à l'innovation, c'est qu'il faut à la fois la diversité des pratiques et respecter cette diversité des pratiques, mais qu'il est absolument nécessaire, me semble-t-il, aujourd'hui, que l'école réassume une forme de fonction politique qui permettra de retrouver une forme de légitimité à l'acte même d'enseigner. C'est pas simplement l'école, c'est l'ensemble des institutions de la République qui sont dans cette circonstance ou dans ce problème, y compris les travailleurs sociaux qui, à chaque intervention, doivent reconstruire la légitimité de l'intervention. C'est pareil pour les enseignants, me semble-t-il, dans les quartiers populaires, qui sont obligés de reconstruire, de justifier en permanence les actes qu'ils font. Donc il me semble qu'il faut à la fois essayer de réfléchir à la refondation d'un projet et à la diversité des pratiques et inscrire cette diversité des pratiques et des pratiques innovantes dans l'unité, disons, d'un projet qui soit un projet plus large.
François Jarreau.
Oui, là, je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire Didier Lapéroni, parce qu'effectivement, je crois qu'il a très bien vu les choses du côté des enseignants. Ce à quoi sert l'innovation du côté des enseignants, c'est à ce que les enseignants se réapproprient leur métier, qu'on leur a confisqué sur une grosse partie.
Et on leur a confisqué. Alors, qui et comment ?
Depuis des années, on prétend leur dire ce qu'il faut faire. On les enferme dans des grilles horaires et des programmes qui restreignent énormément leur liberté, en fait, pédagogique. L'innovation, va leur permettre, doit leur permettre de réfléchir à leur pratique professionnelle, de se positionner autrement dans leur pratique professionnelle, de retrouver la confiance aussi avec l'institution. Et ça, je crois que c'est des éléments très importants. Je pense que plus que le transfert des bonnes pratiques entre les établissements ou entre les enseignants, le vrai impact de l'innovation sur le système éducatif, c'est de redonner du plaisir à enseigner aux enseignants, de redonner de la communication à l'intérieur du système et de remobiliser des enseignants qui ont été quand même pas mal matraqués toutes ces dernières années.
Donc c'est une sorte de technique de management aussi.
En tout cas, c'est vraiment un besoin qui devient vital aujourd'hui dans le système éducatif, que de ce que les enseignants se réapproprient vraiment leur métier.
Didier Lapeyroni, on a parlé des parents en tout début d'émission, en lisant votre ouvrage « Refaire la cité ». Donc, je lisais sous votre plume des exemples de repolitisation des quartiers, ou du moins de réimplication des habitants, des citoyens, forme d'empowerment. Le mot est assez à la mode. Alors, il y a des exemples latino-américains, il y a des exemples américains aussi, comme la ville de Chicago. Après tout, Barack Obama a été un travailleur social là-bas. Est-ce que c'est aussi une piste pour l'école, c'est-à-dire de réimpliquer les parents, la société dans l'école davantage? Est-ce qu'on peut voir des projets? Est-ce que vous en avez déjà vu des projets? Est-ce que vous en connaissez qui travaillent cette veine-là?
L'idée qui est défendue dans ce livre, c'est que le diagnostic qui est posé sur la situation aujourd'hui des banlieues et l'interprétation qu'il faut en avoir et de mettre au cœur, disons, de la lecture qu'on peut faire des problèmes, ces dimensions politiques. Il me semble que parce que nous sommes dans un pays qui est un vieux pays républicain où les formes d'intégration politique ont toujours précédé les formes d'intégration sociale. Et donc, au lieu de demander aux gens de s'intégrer socialement pour devenir des citoyens, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut les traiter comme des citoyens et que ça permettra, ce sera un vecteur, disons, de réunification sociale ou d'intégration sociale. D'où l'idée que pour qu'ils deviennent des citoyens, il faut qu'ils deviennent des acteurs, de fait, et qu'ils soient reconnus comme des acteurs. D'où cette idée que nous défendons de politiques qui favorisent ce qu'on appelle le mauvais terme, l'empowerment, l'incapacitation, enfin tout ce qu'on veut. C'est-à-dire la capacité des populations de se prendre en charge, d'agir, de créer des luttes sociales. Au fond, pas tellement de participer, j'aime pas trop le terme de participation, qui me semble pas juste en l'occurrence, mais nous défendons cette idée, disons, de capacité des populations ou d'aider ces populations à se prendre en charge et à devenir des acteurs réels de la vie civique et de la vie sociale. De ce point de vue-là, l'idée que nous avons défendue dans ce livre, c'est aussi que ça suppose que les institutions s'ouvrent à ces populations, ouvrent leur conseil d'administration, ouvrent leur direction et ainsi de suite, de manière à ce qu'elles puissent aussi, d'une certaine façon, en tant que citoyens, s'approprier au moins une partie des institutions sociales et ne pas vivre ces choses-là comme des choses qui viennent de l'extérieur. Alors dans ce cadre-là, il me semble qu'il y a des choses qui sont intéressantes du point de vue qui ont été faites dans différents endroits, qui fonctionnent. Alors on donne quelques exemples, soit de lutte sociale, soit de travail qui a été mené en ce sens. De ce point de vue-là, encore une fois, moi j'ai trouvé intéressant des choses que j'ai vues ces derniers temps, de réunions de groupes de parents, par exemple, qui produisent ou qui se construisent et qui arrivent à produire des formes de connaissances et à se constituer de manière positive comme des acteurs et qui deviennent, disons, de vrais interlocuteurs vis-à-vis de l'institution ou vis-à-vis de l'école en l'occurrence. Je trouve ça plutôt positif et plutôt de bon augure.
François Jarreau, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on parle d'innovation pédagogique et que vous connaissez très bien les enseignants innovants pour organiser des forums sur la question, quelles innovations fonctionnent bien? Donnez-nous des exemples simplement de choses que vous avez pu voir, entendre, auxquelles vous avez pu assister.
Alors, les exemples, on en a plein. Un premier exemple qui me vient comme ça à l'esprit, c'est en classe relais, une collègue de Brest qui récupère donc des gamins qui sont plutôt fâchés avec l'école, qui ont été exclus de leur collège provisoirement. Et pour les remettre dans le circuit, eh bien, elle les transforme avec une formation, une vraie formation payée par la ville, elle les transforme en formateurs nouvelles technologies pour personnes retraitées. Donc du coup, les gamins, ils manipulent les nouvelles technologies, ça leur plaît assez bien. Et ils se trouvent devant les difficultés en fait, qu'a l'enseignant avec des gens à qui il faut transmettre des connaissances. Je trouve ça, voilà, ça c'est... C'est vraiment innovant, c'est vraiment génial dans le fonctionnement. Dans le même domaine, je pense à un collègue qui enseigne le service en salle. dans un lycée professionnel. Souvent, c'est perçu comme une humiliation par des jeunes hein, qui se retrouvent dans une filière qui ne sont pas forcément choisies. Et servir des gens, ça peut être perçu de cette façon-là. Eh bien, ils transforment ça en une espèce de théâtre, puisqu'en fait, c'est bien de ça dont il est question. Dans sa vie en salle, c'est quand même du théâtre, en les masquant. Et ils apprennent, masqués, à servir des gens. Donc voilà encore une ruse qui permet de dépasser un obstacle qui est quand même un obstacle profond de façon assez simple. Vous voyez, c'est pas uniquement des nouvelles technologies, c'est pas, ça peut être plein de choses. Hein. Je pense, alors nouvelles technologies, je pense à cette collègue cette année qu'on a récompensée à Nantes, au Forum de Nantes, qui a dans sa salle de classe des petites fourmis qui sont filmées et dont les déplacements, une espèce de fourmi rare hein, en Europe, et dont les déplacements sont suivis par les élèves avec des hypothèses qu'ils émettent sur comment elles se repèrent, quels sont les signaux qu'elles utilisent.
Et il s'agit de Ange Ensourd.
Oui, voilà.
Que nous
oui,
avons reçu dans Rue voilà, des Écoles.
Absolument, voilà. Oui, c'est exactement ça. Enfin voilà, on peut multiplier les exemples comme ça. Hein. En fait, on se rend compte que, et là je reviens à l'idée que je voulais émettre tout à l'heure, chacune de ces innovations n'est évidemment pas forcément transférable et encore moins généralisable. Par contre, ce qui est vraiment transférable et généralisable, c'est l'esprit d'innovation. C'est-à-dire, c'est le fait que ces enseignants-là se sont réappropriés leur métier, se sont débrouillés pour trouver des solutions et sont en recherche permanente en fait, par rapport à leurs difficultés.
C'est aussi, on le comprend, une façon de travailler, mais ça demande une mobilisation individuelle très importante. Et après tout, au départ, c'est pas dans le contrat entre l'école et ses enseignants. Alors, est-ce que pour sauver l'école, la sauver éventuellement avec l'innovation, il faut demander aux enseignants un investissement hors norme?
C'est dans le contrat que l'enseignant a avec ses élèves. Évidemment, c'est avec l'institution, on le sait, les termes du contrat sont complètement décalés. La Cour des comptes vient de le démontrer, encore une fois, sont complètement décalés. Hein. Mais par contre, dans le contrat moral, en fait, que l'enseignant a avec ses élèves et qui leur permet d'avoir une vie quand même aussi intéressante et passionnante, même en classe, il y a ce contrat-là de se dépasser et de trouver des solutions face aux difficultés plutôt que de faire semblant de ne pas les regarder.
Je regarde Didier Lapéroni, vous écoutez.
Oui, parce que c'est un des thèmes que nous avons pointé lors de notre première réunion. Et la réussite éducative, c'est aussi, c'est pas simplement pour les élèves, les familles, c'est aussi celle des enseignants. Et ça a bien été pensé et perçu comme ça. Il n'y a pas de raison que les enseignants s'emmerdent dans leur enseignement. Donc l'idée est bien de travailler et de voir quels sont les modes d'innovation qui peuvent permettre que les enseignants aussi puissent exercer leur métier et y éprouver plus de satisfaction ou y trouver plus de satisfaction. Ça fait partie, quand on dit réussite éducative, encore une fois, ça fait partie des objectifs. Il n'y a pas de raison de les évacuer.
Et ce n'est pas seulement la réussite scolaire.
Non, ce n'est pas. C'est éducatif, encore une fois, de ce point de vue-là. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est une vraie question plus générale. C'est-à-dire qu'il faut se poser sur qu'est-ce qu'on attend de l'école et quel type... Quand on parlait du projet tout à l'heure, l'école avait ce projet. Elle n'était pas simplement la transmission du savoir. Elle formait, disons, un type particulier d'individu. C'est une des questions aussi qu'on doit se poser et que ce conseil se posera, disons, sur de manière plus générale, qu'est-ce que doit être aujourd'hui l'éducation.
Et c'est aussi la question qu'on se pose semaine après semaine dans cette émission Rue des Écoles. Merci à tous les deux, Didier Lapéroni et François Jarreau. À bientôt, François. Je vous fais une courte annonce, chers auditeurs, à propos d'éducation artistique, enfant, l'art, l'artiste, rencontre et résonance. Ça se passe à Lyon, à l'Université Lumière Lyon 2. C'est organisé par Alain Kerland, avec qui nous parlions de ce sujet il y a quelques semaines. À partir du 30 mai et jusqu'au 28 juin 2013, toutes les informations sur le site exposition-lyon.com. Je vous souhaite un très bon week-end sur France Culture et tout de suite vous retrouvez le carnet nomade de Colette Fellous. À bientôt.